Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien bonsoir à tous, nous voici dans la, je crois, 18e émission des arènes de l'écologie. On est le 26 février. Et donc aujourd'hui, le thème, c'est la biodiversité. Biodiversité, pourquoi ? Bah parce que, effectivement, aujourd'hui s'ouvre la session de rattrapage de la COP 16 à Rome, donc qui prend la suite de la COP 16 qui s'était tenue en octobre, à Cali. Donc ce soir, nous avons deux invités. Alors, comme d'habitude, j'ai toujours autant de problèmes à prononcer les noms. Donc, avec Nathan, qui va nous dire son nom.
Nathan Orenberger.
Voilà, merci Nathan. Et puis, Dominique Martin-Ferrari, qui est à Montpellier. Donc, on la joindra au téléphone. Peut-être qu'elle est déjà en ligne. Donc,
oui, je suis déjà en ligne.
Ah, parfait. Parfait, Dominique.
Abdoulaye.
On t'entend bien. Et pour traiter ce sujet, on aurait dû avoir Nicolas Moulin, qui est un entomologue explorateur, qui a un parcours assez édifiant. Mais bon, manifestement, les entomologues chasseurs de papillons sont pas plus doués que les géographes pour la gestion des agendas. Et en fait, c'était trompé de moi. Il avait noté le 26, mais il croyait que c'était le 26 mars. Et donc là, moi, je suis rassuré. Effectivement, je ne me suis pas trompé pour une fois dans mes envois. Bon, ceci étant, donc on va traiter de la question de la biodiversité, sujet éminemment important. Mais rapidement, je vais présenter les uns les autres. Donc, Nathan, tu es chargé de mission
Tout à fait. Je suis chargé de mission en politique de la biodiversité pour l'association Humanité et Biodiversité.
Voilà. Donc, l'association Humanité et Biodiversité, ce n'est pas n'importe quelle association. Alors, le nom est assez nouveau, mais pourtant, si on regarde sur votre site internet, on finit par comprendre que vous êtes les descendants directs du ROC, qui, si je ne m'abuse, a été créé en 1976 et qui veut dire Rassemblement des opposants à la chasse.
C'est exact.
Et avec qui comme figure illustre, dis-nous ça, Ben, notre petit interro du soir.
Hubert Reeves.
Parfait, t'as au moins la moitié de la note, donc t'as 10 sur 20. Le deuxième étant Théodore Monod, dont le premier d'ailleurs étant Théodore Monod, à qui a succédé Hubert Reeves autour des années 2000. Donc effectivement, de prestigieux présidents. Donc c'est un héritage lourd qui aujourd'hui assure Bernard Chevassus-Auluy, ancien directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc effectivement, s'il y a des gens bien au parfum pour nous parler de la biodiversité, ça peut être que le Muséum et donc Humanité et Biodiversité. Et puis on a donc au bout du fil, qu'on entend lointain, notre grande sœur de radio, donc Dominique Martin-Ferrari, qui, elle, suit ces sujets-là depuis
20
depuis...
ans.
Oh, bah, tu rigoles.
Depuis bien longtemps, on ne va pas le dire parce que ça ne va pas.
Ouais, voilà. Être
voilà, c'est ça.
C'est pour ça que j'ai dit 20 ans.
Voilà, 20 ans.
C'est très gentil.
Voilà. Et donc, bon, grosso modo.
Non, depuis le sommet de Rio, puisque j'avais préparé le sommet de Rio. Et
Stockholm, non
voilà. Stockholm, j'avais été, mais j'étais encore toute petite en termes environnemental. Voilà.
Okay, alors Rio, pour les enfants qui nous écoutent, c'était quand même 1992. C'était le début d'une grande prise de conscience mondiale sur les questions d'écologie. On y reviendra peut-être un jour sur l'histoire de tout ce mouvement. Ça ne nous rajeunit pas, effectivement. Ben et à moi, c'était aussi parmi nos premières années de journalisme, donc on a commencé à suivre ça, et on a donc aussi commencé à parler de biodiversité à cette époque.
Oui, c'est ça qui est intéressant.
C'est ça qui est important, puisque la convention a été signée en 1992, en 92. Même temps que la convention climat.
D'accord. Avant
le
climat, donc.
Et en même temps que la convention sur la désertification.
Désertification, oui.
Donc la convention a été signée avant celle du climat ou pas ?
En même temps.
Il y a eu trois conventions signées au sommet de Rio. Il y a eu la convention climat, la convention sur la désertification et la convention sur la biodiversité. Elles ont eu un cheminement et une histoire un peu différente les unes des autres. La désertification est tombée un peu dans les oubliettes. Elle est tombée à l'eau. C'est dur pour une convention sur la désertification. Et la convention sur le climat a immédiatement a été prise en question et en compte parce que le protocole de Kyoto a été ratifié très rapidement. Et la convention biodiversité a vu d'abord une heure assez
glorieuse.
Bonne, puisque glorieuse, oui, puisque à Jakarta, elle continuait avec l'UICN à fonctionner, et puis ce fut un grand silence à cause d'un des problèmes dont on va parler dès aujourd'hui, puisqu'il n'est toujours pas résolu.
D'accord, donc effectivement, la biodiversité est aussi un peu passée sous
les radars.
Sous les radars et sous
pas
l'eau.
Vraiment, non, sous... pas vraiment. La discussion continuait, mais
en silence.
L'accord ne pouvait pas. La divergence, il n'y avait pas les 193 pays comme pour le climat.
D'accord, donc grosso modo, effectivement, on a parlé plus de climat que de biodiversité, mais pour certains spécialistes, au moins dans les cercles scientifiques, certains nous disent que la situation est tout aussi grave. Justement, Ben, tu voulais préciser ça. Tu as relevé un certain nombre de choses dans la presse ces derniers jours qui attirent l'attention, notamment, et le mécontentement des scientifiques sur le fait qu'ils ont l'impression de sonner la sonnette d'alarme depuis des années et de jamais être entendus.
Alors ça, c'est un peu l'écho qu'on a et qui renvoie d'ailleurs à tout le débat sur le climat aussi, où les scientifiques se disent, mais bon... ça sert à quoi que nous, on produise des rapports, qu'on produise des évidences et qu'elles ne sont jamais bien répercutées par les politiques. Je pense que ça, Dominique pourra en parler mieux que moi. Là où c'est intéressant, et là j'aurais beaucoup de questions, Dominique, c'est par rapport à tout le dérèglement géopolitique dans le monde et jusqu'à quel point est-ce que ça va impacter aussi la COP 16. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où le multilatéralisme étant à ce point aujourd'hui torpillé par les uns et par les autres, est-ce que ça ne va pas avoir aussi un effet sur la conférence, le sommet à Rome ?
De quoi va-t-on parler à Rome, Dominique ?
Alors, moi, je voudrais revenir en arrière d'abord parce qu'il n'y a rien de changé. Entre ce qui s'est passé en 1992 où on était au moment où le multilatéralisme marchait à fond la caisse puisque Rio était sous l'ombrelle du multilatéralisme, le mur de Berlin venait de tomber, la guerre froide était terminée et on avait donc on était en route pour la mondialisation. Je rappelle que c'est à cette époque d'ailleurs qu'est né CNN et donc les premiers médias mondiaux. Donc on était vraiment sur la mondialisation. Si si la biodiversité est restée un peu en rade par rapport au climat, ce n'est pas à cause des problèmes du multilatéralisme, c'est parce qu'il y avait un gros désaccord entre le Nord et le Sud et qu'on n'a pas résolu ce rapport entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, si on se retrouve à Rome après Cali l'année dernière, c'est bien parce que on est toujours dans ce désaccord. Alors, certes, entre-temps, le multilatéralisme va encore moins bien qu'avant, mais c'est quand même pas à cause du multilatéralisme que la biodiversité n'a pas avancé. N'a pas avancé parce que
indépendamment
le Nord et le Sud n'arrivaient pas à se mettre d'accord.
Donc tu vas nous parler de la pomme de discorde entre le Nord et le Sud, la pomme de discorde de la biodiversité.
Donc, voilà.
Et donc on va parler aussi finances, j'imagine, Dominique, parce que comme avec le climat, il y a un problème de ce que les uns et les autres.
Avant d'arriver directement.
Non, mais moi je te donne juste.
Vas-y. Il faut peut-être rappeler quand même quelle était l'histoire, quoi, de ces conventions. Ces conventions étaient faites pour effectivement, on avait déjà Mais là, je pense que Humanité et Biodiversité en parleront beaucoup mieux que moi. On avait sonné déjà le signal d'alarme parce que le climat commençait à chauffer et parce que la biodiversité commençait à battre de l'aile. Et c'est pour ça qu'on essayait de se mettre d'accord. Mais très vite sur la biodiversité, autant sur le climat, c'était facile parce qu'on avait un ennemi commun qui était le CO2. On l'avait dans tous les pays du monde et l'effet était dans tous les pays du monde. Donc c'était facile, même si aujourd'hui on discute encore des problèmes financiers sur la Convention climat. Pour la biodiversité, c'était beaucoup plus compliqué puisque chaque écosystème a sa propre
diversité.
Problématique Logique. Biodiversité. Ouais. Oui, pardon.
Oui, on disait chaque pays a sa diversité, on faisait un jeu de mots, mais bon.
Oui, bien sûr. Oui, et donc, à partir du moment où, si vous voulez, le problème qui s'est posé, c'est que la biodiversité était très utilisée par les pays du Nord, je vais aller très vite, et les pays, elle allait chercher pour ses médicaments, pour son agriculture, pour le reste, la biodiversité dans les pays du Sud, et sans jamais les rémunérer.
C'était une ressource, c'est tout.
C'était une ressource qui était une ressource quasiment
exploitable.
Exploitable, c'est
à l'infini.
Continuer à se conduire d'une manière coloniale par rapport
d'accaparement, pour faire simple.
Pour faire simple, par rapport à ces terres tropicales et équatoriales. Alors, à l'époque, en 92, on allait directement chercher les molécules. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce que les pays du Nord travaillent sur des fragments de molécules, sur des lignes numériques, etc. Ce qui rend encore plus difficile de savoir d'où vient la base. C'est encore plus difficile de sourcer la biodiversité et donc de réclamer un dû par rapport à cette biodiversité. Donc, ce qui s'est passé à Cali, c'est que on s'était mis d'accord. Hein, tout le monde est d'accord sur le principe que la biodiversité se casse la figure, qu'il faut sauver le monde. Autour de ce problème-là, tout le monde est d'accord. C'est l'unanimisme total. Mais à partir du moment où on commence à parler finances et on commence à se dire bon, il va falloir que un fonds permette à la biodiversité soit d'être protégée, soit d'être restaurée, et pour certains encore, d'autres, justement les pays du Sud, on dit, et attention, il n'y a pas seulement à la protéger, il n'y a pas seulement à la restaurer,
mais
il y a aussi à nous devoir tout ce que vous nous avez pris jusqu'à présent.
Le dédommagement.
Il y a des dédommagements absolument nécessaires qui doivent nous revenir, et c'est ce fameux APA, c'est-à-dire cet accord sur le partage des avantages. Et alors, à Nagoya, il y a 10 ans, en 2010, on avait trouvé déjà un premier accord qui a permis d'être la base de l'accord de Kunming au Canada il y a 2 ans. À Cali, on espérait que tout allait rouler comme sur des roulettes, puisque enfin, il y avait eu un accord. Mais cet accord sur la biodiversité, il est en fait un peu falsifié, c'est-à-dire tout le monde est d'accord pour dire oui, ça va mal, oui, il y a un certain nombre d'accords sur les causes, mais là où ça achoppe, c'est sur le partage des financements entre le Nord et le Sud. Voilà.
Donc grosso modo, le partage des ressources et de la richesse que crée la biodiversité. Donc effectivement, cette question-là est au centre de la COP 16, donc de la conférence des parties en général. Mais quid de la question de l'état des lieux? Si on fait un parallèle avec le GIEC est capable pour le climat de nous dire il y a un scénario à plus 1 degré, 4 degrés, depuis tant on a augmenté de X degrés, la mer monte de quelques millimètres ou pas. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de faire cet état des lieux sur la biodiversité ?
Il y a très récemment, les chercheurs qui travaillaient sur la biodiversité se sont aperçus que les chercheurs qui s'étaient réunis en interdisciplinarité au sein du GIEC pouvaient peut-être gérer la même chose, voire aboutir au même progrès pour la biodiversité s'ils se réunissaient. Et c'est ainsi qu'est né l'IPBES, c'est-à-dire c'est une réunion des multidisciplinaires également, c'est-à-dire il y a à la fois des économistes, des sociologues, des chercheurs, des botanistes, etc., qui, comme pour le GIEC, essaient de trouver une solution sociétale, politique et scientifique de donner en tout cas des conseils aux politiques pour que les gouvernances puissent se mettre en place. Le seul problème,
malheureusement,
le Nord comprend mal ce que demande le Sud.
L'IPBS existe depuis quand ?
C'est assez récent, il y a 5 ans, je crois.
D'accord.
5-6 ans, enfin, humanité, biodiversité.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
J'ai juste une petite question, Dominique. Est-ce qu'on peut imaginer que cette dernière rencontre s'achève sans succès ?
Oui.
D'accord.
Moi, je pense que oui, parce que, d'abord, là-bas, il faudrait vraiment que vous puissiez passer un extrait de l'audition de notre
ministre
ambassadrice, oui. Sylvie Meunet, qui représente la France, à Rome, et qui l'a représentée à Cali. Et elle, avoue très très bien où se situe le problème. Ça m'étonnerait qu'on trouve une solution. Aujourd'hui. Alors.
Dominique, dis-nous. Elle t'a dit quoi, donc ? Quel problème ?
Pour vous donner une idée. Il y a un fonds qui existe depuis toujours, qui s'appelle le Fonds mondial, le FEM, qui avait été. Qui existait même avant Rio, et qui est censé financer tous les problèmes de biodiversité. Les pays du Sud, et notamment tous les petits pays qui n'ont pas beaucoup de moyens administratifs, se sont plaints en disant « ce FEM, nous ne pouvons pas lui demander d'argent, c'est très compliqué, nous devons attendre, ça n'est pas fait pour nous ». Et ils ont donc proposé, pour aller vite aussi, je résume, un fonds, le fonds de Cali. Et c'est là-dessus, sur ces deux fonds, que c'est fini Cali. On n'a pas eu d'accord. On avait d'un côté le Nord qui voulait rester avec le FEM et le Sud qui voulait entrer et créer un nouveau fonds qui est le fonds de Cali. Il semblerait que la Colombie ait essayé de travailler un consensus et essaye de proposer un fonds qui permettrait peut-être d'allier les deux propositions. À ce moment-là, Rome pourrait peut-être aboutir. Mais mon avis personnel, je crois qu'on n'est pas mûr pour ça.
Pourtant, Dominique, on a vu dans l'agenda de Mme Pannier-Runacher il y a quelques semaines qu'elle avait rencontré la ministre colombienne de l'Environnement. Et peut-être
c'est sympathique et ils ont toujours de très belles décisions, et donc si Pannier-Runacher a rencontré la ministre de l'Environnement colombienne, elle a donc dû considérer effectivement que ce consensus était quelque chose de correct, mais je ne suis pas certaine que les pays du Sud.
Su qu'elles s'étaient rencontrées, on ne sait pas quelles ont été la teneur de leurs discussions et les conclusions.
Si, on le sait parfaitement, on suit au quotidien. Et aujourd'hui, on en est à la proposition d'un consensus. Et à la proposition d'un
Je parlais des discussions entre nos ministres, notre ministre de l'Environnement et celle de Colombie. Ça me fait la transition pour parler du fameux agenda de Madame Agnès Pannier-Runacher. Effectivement, on commence à voir l'intérêt de la chose, à suivre ce qu'elle fait. Donc, ça fait un mois, que depuis le début janvier, que je la brocarde un peu en disant « Madame, vous êtes plus la ministre de la plage et des mers ». Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait l'impression qu'elle s'occupait que des affaires maritimes. Cette semaine, c'est plus simple. Il y a eu.
C'est pas notre avis ici à Montpellier. Je peux te dire.
Tu trouves qu'elle s'occupe pas encore assez des mers?
Elle s'en occupe pas du tout.
Ah bon?
Et on avait même plus de ministre de la mer. Heureusement, un nouveau vient d'être nommé qui est un peu meilleur que Berville.
Bon. Ok, tout ça pour te dire que cette semaine, Madame Pannier-Runacher a été au Salon international de l'agriculture et sera 3 jours à Rome, non pas pour se balader, mais pour être à la COP16, ce qui est intéressant, puisque effectivement, elle avait boycotté la COP29 pour le climat. Donc, au moins, on aura un agenda politique qui permettra peut-être de remonter des informations sur ce qui s'y passera, parce que c'est vrai qu'il faut quand même...
Bah, on les a en permanence. Ces informations, c'est pas Pannier-Runacher ne viendra que faire une déclaration. Mais c'est pas elle qui fait aboutir et ni avancer ce qui se passe à Rome.
Non, on est bien d'accord.
On fait passer la musique.
Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet sur la technique. Donc, grosso modo, il y a vraiment deux sujets bien différents. Il y a la question des ressources, des revenus, de la richesse, de la biodiversité, sur lequel on ne réussit pas à se mettre d'accord. Et puis, il y a un autre dossier qui, manifestement, n'est pas autant traité qu'on voudrait, c'est l'état des lieux de la biodiversité, avec, on dirait, pour faire simple, une approche plus scientifique qu'on va pouvoir... creuser avec Nathan, mais après la petite page de musique, envoyez-nous la musique. Alors on vous a choisi une petite musique de Kali. Il paraît que c'est la musique qui fait fureur là-bas. Sur YouTube, il y a plus de 11 millions de vues, c'est un grand succès. J'attends la musique, et on va nous l'envoyer d'ici pas tard. Et donc voilà, c'est un petit clin d'œil avec une musique de Kali. On l'écoute, on l'entend, elle arrive, c'est parti.
Presente. escuchía, si mi ausencia fue tu afrenta.
Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles.
Qué noches tan bonitas, si lo en tus callecitas, al fondo mi valle en risa, ay, todito se divisa.
Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles.
Un clásico en el Pascual.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Eh bien voilà, on vient d'écouter donc la musique de Cali. C'est une petite dédicace de Thomas. Bah, Thomas, l'ami de ma fille Brume, Brume Delaunay, qui nous fait des chroniques sur, sur le. Comment, Ben ?
La démocratie citoyenne.
Voilà, la démocratie citoyenne. Heureusement que tu es là, parce que j'en oublie même ce que fait ma fille. Bon, donc, bah, Dominique, je ne sais pas si tu es encore là.
Reste là.
Tu réagiras quand tu voudras. Mais en attendant, on va parler avec. Avec Nathan qui va nous réexpliquer, on a déjà vu qui était l'association, donc si le nom n'est pas aussi connu qu'on voudrait, mais on connaît ses origines illustres, si tant est que Théodore Monod, Hubert Reeves, ça parle à tout le monde. Alors qu'est-ce que tu y fais dans cette association? C'est quoi cette association? Ça sort directement du muséum. Quel est le lien organique entre l'association, le muséum?
Alors, il n'y a pas de lien originel avec le muséum. Ouais. Mais effectivement, notre président actuel, Bernard Chevassieu-Louis, vient du muséum. Comme vous l'avez rappelé au départ, l'association, c'était le rassemblement des opposants à la chasse. Donc, très monothématique. Si le nom a évolué, si nos missions ont changé aussi, c'est que les dirigeants successifs de l'association se sont rendus compte que finalement la chasse n'était qu'un impact parmi d'autres sur la biodiversité et que certains impacts étaient plus conséquents ou en tout cas allaient grandissant. Et donc aujourd'hui, on est une association qui travaille pour influencer les politiques publiques, quelles qu'elles soient, dans tous les domaines qui peuvent être favorable ou nuisible à la biodiversité. Donc on va travailler sur l'artificialisation des sols, on va travailler sur la finance, parce qu'il y a des subventions qui sont néfastes ou qui sont positives pour la biodiversité. On va travailler sur la gestion forestière, sur l'agriculture bien sûr, et sur les stratégies de protection des espèces et des habitats.
Donc vous avez ciblé au fond de nouveaux ennemis qui ne sont pas seulement les chasseurs.
Alors... j'utiliserai même pas forcément le terme ennemi, mais en tout cas, on est amené à se battre contre des intérêts qui vont moins dans le sens de l'intérêt général, on va dire, et qui sont nocifs pour la biodiversité. À noter que l'association des deux termes humanité et biodiversité, c'est aussi pour mettre en avant des préoccupations sociales et de prise en compte de problématiques qui ne sont pas uniquement environnementales, mais aussi liées par exemple à la santé. Quand on travaille sur les pesticides, on s'intéresse aussi bien à leurs impacts sur la santé humaine, aux impacts sur la qualité de l'eau par exemple, au développement des cancers pédiatriques, etc., et aux impacts directs sur la biodiversité, notamment les insectes.
Oui, donc vous êtes passé aussi de... On va dire, il y a un petit glissement de paradigme pour faire savant. Peut-être qu'avant, on était plus centré sur cette notion de nature, et aujourd'hui, la notion de biodiversité est plus complexe, et puis il y a plus de fonctionnalités, c'est plus écosystémique, comme j'aime à prononcer le nom de temps en temps. Et puis, effectivement, ce que moi, j'avais retenu, ce qui m'avait plu dans votre sigle, c'est que le terme humanité et biodiversité ne permettait effectivement d'éviter cet antagonisme, humanichéisme, souvent, qui avait pu exister dans le monde écolo, entre la nature, la bonne et gentille nature, et les méchants humains, surtout agriculteurs, depuis 12 000 ans. Mais bon, on en reviendra, ça fait partie de mes dadas. Mais,
moi, j'ai une question toute simple. En tant qu'ONG, qu'est-ce que vous faites pour vous faire connaître? Quel est votre pub? Quel est votre message clé? Et à qui vous vous adressez en particulier pour propager votre message?
Alors, Pour ce qui me concerne, je fais principalement ce qu'on appelle du plaidoyer. Donc le plaidoyer, c'est un peu le lobbying des gentils. Ça veut dire qu'on essaye d'influencer les politiques. Donc on travaille à l'échelle nationale avec les parlementaires et les ministres. Mais on s'adresse aussi, bien sûr, au grand public. On a un réseau d'Oasis Nature qui sont des espaces verts dont on...
C'est un petit peu votre vitrine, ça. C'est...
Oui, c'est ça. On a un lien fort avec nos adhérents. Donc, on leur propose de développer dans leur jardin un certain nombre de méthodes qui vont être propices à l'accueil de la biodiversité, y compris en milieu urbain. On a des activités de sensibilisation avec des scolaires, dans tout un tas d'événements, etc. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi de jouer sur les deux tableaux, sensibiliser très largement la population, mais aussi être un peu le poil à gratter auprès des politiques pour qu'ils n'oublient pas les enjeux de biodiversité.
Oui, alors je voyais sur la carte de votre site, vous en avez 513 même, Oasis Nature, et dont de mémoire un peu plus de 200 dans la grande Île-de-France, on va dire, puisque les unités géographiques ne sont pas celles que j'utilise d'habitude.
Il y en a des centaines sur le territoire hexagonal, quelques-uns aussi en Outre-mer et même dans quelques pays amis.
Oui, j'en ai vu qu'il y en a entraîné une en Belgique et puis aussi une en Vallée de Chevreuse à Orsay. Je crois que c'était 70 mètres carrés. Donc effectivement,
certaines vont sur plusieurs hectares, mais ça peut être même un balcon en fait. Hein.
D'accord. Il y a beaucoup d'adhérents et beaucoup de comment ça fonctionne. Il y a qui vient se battre, promouvoir la biodiversité.
Qui vient du quotidien. À la limite, qui vient aussi frapper à la porte de chez vous.
Alors ça, c'est très varié. Donc on a environ 2000 adhérents et on a aussi des associations membres. Ça nous permet aussi d'être bien représentés localement. Parce que nous, on est basé sur Paris, mais comme vous l'avez dit, on a des sympathisants et des membres partout sur le territoire. Et en termes de public, c'est vraiment diversifié parce qu'on a plusieurs portes d'entrée, en fait. Depuis quelques années, on essaye de s'adresser vraiment à la jeunesse, à travers de nouvelles productions, à travers un concours aussi.
Oui, dont on parlera, je vais garder ça
voilà,
pour la
très
fin.
Voilà, très bien.
Ouais, la formation, etc.
Donc, voilà, on a aussi des personnes qui sont retraitées et qui donnent un petit peu de leur temps. On a aussi, notamment un conseil d'administration avec beaucoup de personnes qui ont travaillé dans le domaine de la protection de la nature ou en agronomie ou dans la gestion des forêts, donc qui ont une expertise scientifique et qui peuvent nous conseiller aussi dans nos choix, dans les arguments qu'on va employer pour faire valoir auprès de nos interlocuteurs.
D'accord, Ben, t'aurais pas dû nous servir des cacahuètes, là, on va faire des croquements dans le micro, ça va pas le faire. Oui, effectivement, donc c'est une association très ouverte. Tout le monde, ma maman peut venir adhérer
et
cultiver des tomates sur son balcon. Et j'ai d'autres amis qui comptent les oiseaux dans leur jardin.
Et est-ce que vous avez aussi un objectif politique que vous essayez de respecter?
J'allais poser exactement la même question.
Oui. Montpellier se réveille. Vas-y.
Je retrouve finalement dans les propositions qui sont faites par Humanité Biodiversité, toutes les propositions qui ont été faites par le réseau Action Climat, par l'ADEME, etc. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, effectivement, faire de la pédagogie, expliquer ce qu'est la biodiversité, comme on a expliqué ce qu'était le climat, et expliquer aussi comment les gens peuvent s'y intéresser. Mais est-ce que ces actions sauveront la biodiversité dans l'état actuel des choses ? C'est là la question, c'est-à-dire à quel niveau se rejoindre.
Les actions Colibri, c'est bien, mais est-ce que ça va suffire,
quoi ? La science et la gouvernance.
Okay.
Alors effectivement, la sensibilisation est quelque chose d'important. On est convaincu que seule, elle ne suffira pas. et qu'il y a une responsabilité réellement du politique, mais aussi du secteur privé, d'investir ces enjeux et d'être ambitieux. Alors, il y a bien sûr un travail de sensibilisation important qui est à faire. Cela dit, sur beaucoup des thématiques que l'on travaille, en fait, on se rend compte qu'on a un soutien populaire massif sur le développement de l'agriculture biologique, sur la fin de la chasse le dimanche, sur la fin des subventions néfastes à la biodiversité. Enfin, voilà, qui peut être contre une eau de qualité, des forêts gérées durablement et une biodiversité riche. C'est quand même plutôt des causes consensuelles. Et pourtant, elles ont du mal à trouver un atterrissage politique, surtout dans les derniers mois, là.
Oui.
Et pourtant, c'est l'avantage de la biodiversité. C'est-à-dire que vous pouvez prouver que vous avez une action sur la forêt des Alpes, sur la forêt des Vosges. Hein. Vous pouvez prouver que vous avez une action sur un écosystème. C'est-à-dire, alors, enfin, ce que je voudrais essayer de faire passer, c'est que d'un côté, le climat est global, et de l'autre côté, il y a aussi une discussion sur la biodiversité globale. Et que la biodiversité globale, ce n'est pas le même débat que la biodiversité telle que vous la présentez.
Oui, alors moi, j'apporterai un message optimiste. C'est que sur la biodiversité, la différence peut se faire à l'échelle ultra-locale. C'est-à-dire que sur quelques mètres carrés, si on laisse des herbes folles, si on met un tas de bois, quelques vieux cailloux, qu'on n'emploie plus de pesticides, mais la biodiversité peut faire son retour. On peut, voilà, à l'échelle d'un jardin, revoir des papillons si on tombe moins régulièrement, etc. Donc il y a un côté beaucoup plus mobilisateur que le climat où on se dit « bon, je ne suis qu'une goutte d'eau dans le climat mondial ».
Les tonnes de CO2, effectivement, sont globales. Les résultats sur la biodiversité peuvent... On peut avoir cette joie de voir la nature reprendre ses droits et assez vite. Néanmoins, sur cette question de l'appréciation de l'état des lieux, de la biodiversité dans le monde, on a réellement un problème de mesure. Aujourd'hui, c'est d'où le titre de l'émission, la biodiversité au-delà des espèces, c'est qu'effectivement, depuis des décennies, on parle de listes d'espèces, on va faire des spéculations sur le nombre d'espèces, puis on nous dit, au final, il y en a X fois plus, mais on ne les connaît pas, et on nous dit, en même temps, on en perd. Bon, quelque part, c'est un peu confusant. Moi, je dis, en termes de journaliste, je dis que c'est un sujet savonnette, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et c'est peut-être aussi pour ça que la question de la biodiversité est mal engagée politiquement, parce qu'on ne sait pas comment mettre la pression, comment on ne sait pas faire un état des lieux, on ne sait pas appuyer là où ça fait mal. Alors, effectivement, on fait des protections sur des surfaces, etc., mais manifestement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Il y a le fameux effet pare-brise. Alors, tu nous disais ça tout à l'heure, Nathan. Est-ce que tu peux développer ? Parce que ça, c'est du quotidien. Probablement, nos enfants ne le savent pas, mais avant, quand on descendait, on faisait 300 km de voiture, eh ben, le pare-brise était maculé de moustiques et d'autres bestioles. Et aujourd'hui, mais on peut aller jusqu'à Marseille, te voir à Montpellier, Dominique, sans avoir besoin de nettoyer le pare-brise. C'est donc qu'il y a quand même beaucoup moins de monde dans l'air. Vas-y, Nathan,
m'emporte. Tout à fait, c'est vrai que c'est un exemple intéressant. Il y a une étude qui avait fait beaucoup de bruit, qui a été menée sur des réserves naturelles en Allemagne, et qui a mesuré une chute de 75% de la biomasse, c'est-à-dire quand on pèse tous les insectes sur un milieu naturel, donc de la biomasse des insectes ailés en une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'on avait trois quarts d'insectes en moins sur des espaces naturels. Hein. Et donc ça, on le constate effectivement. Alors ça, c'est pas forcément de la disparition. Enfin, c'est là qu'il y a une distinction qui est importante à faire entre la disparition des espèces et la chute des populations. Le nombre d'insectes, ça ne veut pas dire qu'il y a trois quarts d'espèces en moins. Ça veut dire qu'il y a trois quarts d'individus, de nombre d'insectes.
Oui, mais...
Les espèces n'ont pas forcément disparu, heureusement, parce que quand il reste quelques...
Elles peuvent se reproduire,
voilà,
et refaire du monde.
Il reste un petit peu de l'espoir. Mais par contre, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup moins d'insectes.
Et c'est quand même important, parce que quand on parle de la fonction des pollinisateurs, c'est pas le nombre d'espèces qui compte.
Tout à fait.
C'est quand même le nombre de petits soldats, les pollinisateurs, combien de divisions, comme disait notre ami Staline en parlant du Vatican. Donc il y a vraiment une question du poids de la biomasse. Est-ce qu'aujourd'hui, la biomasse sauvage, pour faire spontané ou autre, est en régression? Est-ce qu'on est capable de la peser?
Oui. Alors, la régression, elle est massive. Et il y a des études qui ont été faites sur la répartition de la biomasse. Et les résultats, c'est que les animaux sauvages représentent de l'ordre de 4% de la biomasse. Le reste, ce sont les animaux d'élevage et les humains. Donc ça donne un petit peu une idée de la proportion. Et à l'origine, cette proportion était bien différente. Donc effectivement, aujourd'hui, les porcs pèsent beaucoup, beaucoup plus dans les élevages du monde que les éléphants, les baleines réunis.
Oui, alors ça, effectivement, c'est encore dans les grands espaces emblématiques, mais aussi il y a la biodiversité, ceci quelquefois un peu complexe à traiter, c'est qu'une grande part de la biodiversité est ce que j'appelle moi la biodiversité invisible, celle des micro-organismes qui sont au cœur du fonctionnement du vivant.
Absolument.
Et
on la connaît très mal, à la fois en termes de diversité justement, parce qu'on parlait de nombre d'espèces, donc aujourd'hui on a décrit 2 millions d'espèces à peu près. Aussi bien sur Terre qu'en mer,
catalogue,
sur toute la surface.
On en a 2 millions.
Voilà, on est autour de 2 millions. Et il y a des estimations. Bon, grosso modo, on considère qu'il pourrait y avoir 10 millions, mais peut-être qu'on se plante.
Oui, il y en a qui disent qu'il peut y en avoir 100. Donc,
c'est ça.
C'est plus des grands écarts, un écartèlement. Quoi.
Mais alors oui, on connaît très bien la faune vertébrée. Là, les descriptions sont quand même plus rares, mais c'est évident que sur les micro-organismes, champignons, algues, lichens et j'en passe, on a encore des découvertes très conséquentes à faire. Et dans certains cas, c'est
indéniable. Mais il n'y a pas besoin de les découvrir pour les protéger ou
non,
absolument
pas. En tout cas, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une protection qui soit basée uniquement sur les espèces, mais sur les habitats et sur la fonctionnalité des écosystèmes. Parce que quand on a des écosystèmes qui sont en bon état de fonctionnement, ça permet de protéger y compris les espèces qu'on ne soupçonne pas et qui sont pourtant bel et bien présentes.
D'accord.
Je voudrais parler d'un problème qui va se passer d'ici 2 mois, puisqu'on va avoir l'UNOC 25.
Alors, c'est quoi l'UNOC 25?
Ah oui, l'UNOC 25, c'est la Convention onusienne sur les océans. Et que donc, le problème qui vient d'être posé, et à mon avis, c'est pour ça qu'il faudrait quand même qu'on avance un petit peu à Rome avant cette grande réunion sur les océans, puisque l'exploitation des fonds profonds et des fonds marins dépend effectivement, on ne sait rien, on ne connaît rien, et pour l'instant, on est en train de retenir un petit peu l'exploitation. Mais on sait parfaitement que si demain il y a une rentabilité quelconque quelque part, on laissera tomber la biodiversité au profit de la rentabilité. Et je voudrais rappeler le rapport de Stern qui a été quand même fondamental dans la négociation sur la convention biodiversité, et on retrouve la pensée de Rabi. Tout ce qui a de la valeur est protégé et tout ce qui n'en a pas n'est pas protégé. C'est-à-dire tout ce à quoi on ne donne pas un coup n'est pas protégé. Par exemple, l'eau ou l'arbre ou l'ombre de l'arbre a une énorme valeur mais ne vaut rien et ne sera jamais protégé, alors que le diamant qui ne sert à rien a une grosse valeur et donc est protégé. Donc la notion économique doit être réintégrée à un moment donné, et quand vous parlez des oasis, des forêts, etc., il y a quand même quelque chose qui n'avance pas depuis Rio, c'est-à-dire depuis 50 ans, c'est la chasse aux subventions néfastes, c'est-à-dire qu'on sait que la PAC subventionne les pesticides, on sait qu'un certain nombre de subventions vont aujourd'hui à des destructions de la biodiversité.
Ah bah
donc
tu,
on ne
tu
peut
me
pas
retires
dire
les
que
mots
sur le plan politique, on avance.
Tout à fait, Dominique. Alors justement, moi je me posais une question, et je voulais la poser à Nathan. Quand aujourd'hui les agriculteurs ont besoin de lutter, de se protéger, disent-ils, contre des ravageurs, est-ce que quand on va se débarrasser de ravageurs, on ne va pas en même temps massacrer les pollinisateurs?
Alors justement, c'est le risque et c'est le problème de, d'un certain nombre de produits phytosanitaires ou de pesticides. C'est le cas des fameux néonicotinoïdes dont on a beaucoup parlé.
Et qu'on reparle avec la réintroduction de M. Duplomb.
Tout à fait, malheureusement, parce que ceux-là, justement, ils ont un champ d'action très large et donc ils impactent les insectes dans leur globalité, y compris les pollinisateurs, et ce n'est pas du tout ciblé sur le ravageur précisément contre lequel on veut lutter.
Alors, l'autre fois, on me disait, les pollinisateurs, alors c'était Nicolas Moulin qui devait nous traiter ça, il nous avait dit lors d'une rencontre qu'on se focalisait énormément sur les abeilles, mais que les abeilles ne remplissaient que 20% de la fonction de pollinisation et que le reste de la pollinisation des champs, hein, ou des jardins ou des arbres, était assuré par, par plein d'autres espèces moins grégaires, moins connues, mais tout aussi essentielles, et qu'aujourd'hui, c'est toutes ces espèces passées un peu sous les silences, et comme beaucoup de volants, quand on les voit, on a un peu tendance à vouloir les écraser parce qu'on a peur qu'ils nous piquent. Donc, on a un vrai problème avec la connaissance de la diversité, le ressenti de cette diversité biologique.
Y compris parmi les mal-aimés, les mouches, les guêpes, etc., il y a des pollinisateurs qui sont essentiels. Et même chez les abeilles, en fait, nous, on pense à l'abeille qui nous produit gentiment du miel, Apis mellifera, l'abeille domestique. Et en fait, c'est une espèce parmi 1000 espèces d'abeilles sauvages en France métropolitaine. On a 1000 espèces d'abeilles sauvages qui font ce travail gratuitement. Et on a tendance à mettre le focus uniquement sur l'abeille qu'on connaît bien, qui, dans certains cas, vient même concurrencer les abeilles sauvages.
D'accord. Donc, la nature n'est pas si bien faite que ça. Hein. Même, ça se bagarre entre eux, quoi, c'est ça.
Mais disons que nous, les abeilles domestiques, on les favorise parce qu'on installe des ruches,
on leur donne
à manger.
Un peu, quoi.
C'est ça, absolument. Mais dans certains cas, c'est presque de l'élevage. Et au final...
Oui, c'est de l'élevage.
C'est ça.
Donc, c'est des agricultrices, nos abeilles.
C'est ça, mais des ouvrières infatigables, gratuites, qui travaillent généreusement pour le bien des écosystèmes au sens large, et notamment des humains.
Alors, comment justement, nous, petits citoyens réunis dans les arènes ou pas d'ailleurs, on peut agir. Alors, on peut effectivement améliorer son jardin, faire en sorte qu'il...
Mais tout le monde n'a pas la chance
voilà,
d'avoir
c'est
un jardin.
Voilà, c'est ça.
Mais alors... je vais faire de la promo, hein, mais une des actions efficaces, c'est de se rapprocher d'associations de protection de la nature, soit pour directement mettre la main à la pâte en tant que bénévole, mais simplement le fait d'adhérer, en fait, ça nous donne du poids, ou de signer des pétitions. Faut pas croire que c'est complètement inutile, parce que quand on arrive avec la force de 100 000 ou 200 000 signataires, ou quand on arrive avec des milliers d'adhérents, ensuite, on se met ensemble en plus à plusieurs associations, parce que comme ça a été évoqué tout à l'heure, on est nombreux à porter ces enjeux-là. On se fédère aussi, nous on est membre de France Nature Environnement, qui fédère plus de 6000 associations de protection de la nature en France. Quasiment 1 million d'adhérents ça représente. Et donc quand on va avec cette force-là auprès des décideurs publics, on est quand même un petit peu plus entendu que si on y va en simple citoyen solitaire.
D'accord. Écoute, on va revenir sur ces aspects un peu pratiques et efficaces après la deuxième pause musicale. On parlait du vivant. Ce que je voulais dire, effectivement, c'est une petite pause et un petit clin d'œil à Naaman qui vient de disparaître, qui est un chanteur reggae qui me faisait un peu penser à mon fils. Vous allez voir, c'était vraiment dommage d'avoir pris sa connaissance après sa disparition et qu'il ait fallu qu'il soit mort pour qu'il passe à la radio. Bon, eh ben, envoyez Naaman.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
To the matter, before time we've got just walk away. No sign in no banner, yet your words never go astray. Thank you for the strength, my friend. Give thanks for the wisdom. You are the real one, yeah. Like a lucky day, see, we try to drag it down there. Till struggle always, you know how it is. Got to make it out there with gratitude. We love that the reason why we still alive and I'm feeling alright. It's like I'm walking on the railway. Give thanks for guiding my way. Walk straight again. Give thanks for the wisdom. You are the real daughter.
run. Time's again, man, I'm bigger for the wisdom. You are the reward. Really feeling like a lucky day. Such a honor. Feels right. Got no troubles on my back for now. Halo on the highway. I was gonna just ride. Give thanks for having my back, brother. Speak life when they're talking about murder. Stay high, I'll be under no longer. Bless you, may your love not surrender. Let him blow on you, man. Walk straight again. Give thanks for the wisdom. You are the real Lord. Real on the long run. Thanks again. Man, I'm bigger for the wisdom. You are the real one. C'est la marche qui m'a bercé. Qui reste quand la vague s'en est allée? Incessant quand me passe sur le pavé. Cette pierre que t'as lancée dans la mare de mes pensées. Qui reste quand la vague s'en est allée? Yeah. Walk straight again. Give thanks for the wisdom. Bigger for the wisdom. You are the reward.
Eh bien, nous voilà revenus dans les arènes de l'écologie avec. Avec Nathan, vas-y, redis ton nom, je suis tellement nul, excusez. Et puis Dominique Martin-Ferrari est depuis Montpellier, et puis Nicolas Moulin qui est dans son train et donc qui ne peut pas nous joindre, mais on le retrouvera le 26 mars naturellement ou sur l'émission du moment. Oui, alors en deux mots, ce qu'il avait, parce que Nicolas est un entomologiste assez surprenant, mais explorateur, et j'avais été un peu frappé par son histoire qui nous racontait que, parce que la biodiversité encore réserve d'énormes mystères, donc il était à la recherche du plus grand papillon africain, je crois dans les forêts du Congo, si je ne me trompe pas, et dont on ignore totalement l'existence, la connaissance de son état larvaire. On ne sait ni à quoi ressemble sa larve, ni ce qu'elle mange, ni sur quel arbre elle pousse. Donc, comment le protéger, ce brave papillon? Les scientifiques, les naturalistes ont encore du boulot pour connaître les espèces. Mais nous, en France, comment on peut faire pour maintenir un peu de la biodiversité dans notre environnement? Et puis aussi, pour traiter cette question, Dominique, prépare-toi, comment on peut aider, peser d'une manière ou d'une autre pour que peut-être un jour, on réussisse à trancher cette question de la... pencher la balance du bon côté sur cette question du financement du fonds de biodiversité au niveau mondial.
Avant de reparler des financements, parce que c'est quand même un point très, très négatif pour l'instant, je vais reprendre ton exemple du papillon,
oui.
Parce que je trouve ça très beau. Et si on ne déforestait plus, peut-être que ce papillon le protégerait davantage.
Ah ça peut commencer par là, on est bien d'accord, mais d'un autre côté...
Il est évident qu'il n'y a pas de discussion sur la biodiversité sans une discussion sur les pratiques humaines. Et de la même manière que vous avez tout à l'heure parlé des abeilles et des néonicotinoïdes, j'arrive jamais à le dire, ou des pesticides, je veux dire que tout part aussi d'un truc circulaire entre l'activité humaine et la biodiversité. On ne protégera pas la biodiversité sans que sur le plan sociétal, il y ait économiquement aussi quelque chose qui se passe et que les gens comprennent que le beau ne se value pas de la même manière que une tonne de blé, et que c'est quelque chose, à mon avis, que les... Alors, je veux bien reparler financement, parce que c'est aussi une, quelque chose qui est un peu lié à cela. C'est-à-dire que dès le départ, hein, la biodiversité a été considérée comme quelque chose à valoriser sur le plan économique. On a immédiatement vendu du vivant. On a vendu du vivant en plantes, on a vendu du vivant en graines et en semences. On a installé des empires sur ces puissances. On a instauré des empires sur la puissance du vivant.
Mais bon, à commencer par le muséum qui est dans le jardin des plantes. Et le jardin des plantes, c'était le jardin d'acclimatation où, effectivement, il s'agissait d'acclimater les plantes qu'on était allé chercher, que les explorateurs étaient allés chercher par-delà des mers.
Exactement.
Et c'est un business assez français.
Aujourd'hui, parce que la totalité de nos médicaments viennent effectivement de toutes ces explorations, la totalité, et ce sont les multinationales donc qui aujourd'hui ont réussi.
Alors, comment on reprend les choses en main, Dominique? Je te laisse une minute, parce qu'après il faut que Nathan nous explique un peu comment il veut lancer, comment on peut agir avec nature et...
Je suis en train d'expliquer comment on fait, on peut agir, même si ça t'échappe.
Ça ne m'échappe pas, mais j'ai l'œil sur le
processus. On ne peut agir que en ayant une relation aussi à la société et en se débarrassant peut-être d'un certain nombre. Alors, il n'y a pas seulement à créer des oasis ou à créer de la permaculture ou à créer...
C'est prise de conscience, tu nous dis.
C'est extrêmement important. Mais il y a aussi à se préoccuper de tout ce qu'on importe, de tout ce qu'on vole ailleurs, de tout ce qu'on prend ailleurs. Et je voudrais rebondir pour finir sur ce que disait, la question que posait Ben au début de l'émission, c'est-à-dire sur le multilatéralisme. Autant la Convention sur la biodiversité a commencé à se débattre à un moment où il y avait une espèce de mondialisation heureuse possible, et il y avait déjà quand même un problème entre le Nord et le Sud. Je ne vous dis pas aujourd'hui, au moment où le multilatéralisme bat de l'aile, au moment où se réinstallent les empires, au moment où les lois globales et systémiques sont en train d'avoir un coup dans l'aile, je ne pense pas que la biodiversité, malheureusement, je suis très pessimiste.
Va en bénéficier.
Donc j'attends effectivement que, on nous donne des solutions peut-être.
Eh bien justement, on va voir avec Nathan Orenberger. Allez Dominique, laisse-nous, il n'y a plus que 3 minutes et il faut que Nathan puisse nous expliquer ce qu'il va faire. Et notamment, il y a le fameux concours à voix haute pour la diversité que vous relancez une édition. Et faut aller sur le site Humanité et Biodiversité. Moi, j'ai été frappé par le plaidoyer de Mariam Ndaye.
Lauréate de la précédente édition.
Voilà, c'est la précédente édition. J'encourage tout le monde et puis je remercie la technique qui me fait les grands signes parce qu'on est comme d'habitude encore en retard.
Non.
Allez, je te laisse, Nathan. Qu'est-ce que tu as un mot à ajouter? Voilà.
Parce qu'on parlait des papillons tout à l'heure. Je lisais récemment, en France, on a perdu 11 espèces de papillons dans les départements français, 11 espèces de papillons le jour en 20 ans. Et donc, comment est-ce qu'on agit? Il faut cibler ce qui menace directement la biodiversité. Donc c'est la destruction des habitats, ça, c'est le premier facteur. Ensuite, on a la surexploitation des ressources, le braconnage, la déforestation, la surpêche, le changement climatique et les pollutions. C'est simplement ces leviers-là, on les connaît, qui affectent la biodiversité et les écosystèmes. Et donc il faut agir avec tous les leviers possibles et à toutes les échelles pour combattre toutes ces menaces.
Bon, bah écoutez.
Et je suis d'accord.
Bon, bah génial. La semaine prochaine, ce sera, on reviendra sur la question de l'agriculture qu'on ne va pas hésiter à remettre un petit peu en cause, notamment sur sa question de biodiversité. On remercie la technique, Armand. Ils ne m'ont pas indiqué le.
On remercie Dominique.
Voilà, on remercie Dominique. Merci Ben. À la semaine prochaine. Allez, on vous embrasse tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.